I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Johan. Tu vas bien?
Salut Patrick.
Écoute.
Ça va bien et toi?
Je veux te raconter ce que j'ai fait là, ces 15 dernières minutes. J'étais à la crèche pour accompagner les petits et puis je suis revenu. Et tu sais où j'habite?
Oui.
Tu sais que j'habite à la campagne, dans la forêt, en Finlande.
Dans la forêt, enneigée ou pas?
Alors là, il n'y a pas de neige, mais c'est encore mieux pour mettre l'ambiance. Imagine la petite route de campagne au milieu de la forêt. À gauche, des arbres, avec la colline qui monte. Je roule, tranquillou, hein, 50-60 km/h, tu vois. Il est 8h du matin, 8h30, et il fait encore un petit peu sombre. À droite, les arbres aussi. Ça défile. Les arbres comme ça. Et je commence à mettre un morceau de musique que tu connais peut-être. On the nature of daylight, de la nature du soleil, voilà, du soleil du jour. Et donc imagine, il y a ça, tu vois, avec les arbres qui défilent. Et puis je suis tranquille. Et là je vois, sur la droite, à travers les arbres, il y en a peut-être 20, 30 mètres, et puis il y a le bras de mer. Et derrière, il y a la forêt qui monte sur une haute colline à peut-être un kilomètre. Et puis tout à coup, je m'y attends pas, mais le soleil qui pointe au-dessus de la cime des arbres de l'autre côté, tu vois. Et il y a des nuages, mais les nuages, ils s'écartent juste pour laisser passer la lumière du soleil. Et il y a un plafond de nuages au-dessus qui devient jaune, rouge, orange. Et je continue à rouler, les arbres qui défilent. Et le soleil qui continue à monter tout doucement. Et ça roule. Et ça roule. Et là, bah, je me mets à pleurer, je crois. Tu vois, c'était... Et puis je me suis dit, bon, je vais aller faire une émission avec Johan quand même. Mais... j'ai eu un moment où je me suis dit, je vais juste continuer à rouler. On s'en fout, les podcasts, la vie. De toute façon, il y aura bientôt des cordyceps partout avec des zombies, donc
ça
sert à rien. J'ai écouté peut-être 40 000 fois On the Nature of Daylight depuis lundi dernier. Je suis. Comment dire? Bonjour à tous, c'est Super Laser Punch. Je suis Patrick Béja et il y a Johan qui est juste là. Comment tu vas?
Ça va, moi je suis un peu jaloux parce que alors j'adore Richter et j'adore ce morceau aussi. Et moi je peux pas le mettre parce que sinon au bout de je sais pas 5 secondes ma fille va se mettre à pleurer.
Ah merde.
Pourquoi tu mets la musique triste? Voilà.
Je comprends. Mon fils, c'est plutôt Thunderstruck et Back in Black de AC/DC, tu sais. Donc, il demande pas souvent On the Nature. Comment on pourrait le traduire en français? De la lumière du jour, tu vois, un truc comme ça.
La nature de la lumière du jour.
On va en parler. On va en parler parce que après 3 épisodes de The Last of Us. On va parler de The Last of Us, hein, au cas où vous ne saviez pas. La série de HBO, basée sur le jeu vidéo de PlayStation, de Sony. Et après 3 épisodes, pour la partie sans spoiler, qui ne va pas durer très longtemps, mais on vous préviendra quand elle se termine, je crois que c'est, à ce stade, la meilleure adaptation de jeu vidéo en format filmé que j'ai jamais vu. Est-ce que tu serais d'accord avec cette description?
Oui. À froid, enfin à chaud, oui. J'ai pas de d'autres. J'arrive pas à trouver d'autres d'autres idées à la place, quoi. Oui.
Il y a Arcane qui est évidemment un chef-d'œuvre incroyable, mais c'est pas Arcane, c'est pas vraiment une adaptation. Ils ont repris des personnages, ils ont repris des environnements et une sorte de feeling général, mais ils n'ont pas vraiment adapté, ils ont inventé un truc qui est génial, mais je ne sais pas si je dirais que c'est tout à fait une adaptation.
Ouais, on pourrait faire plusieurs catégories. Là, si on parle de refaire le jeu vraiment adapté, pas seulement l'univers, mais aussi toute la trame narrative du jeu à l'écran, ouais, dans cette catégorie-là, il n'y a pas de souci, je pense que The Last of Us... Prend le trophée.
Je crois que il y a des gens qui vont nous dire avec raison, bah oui, mais Last of Us, c'est pas difficile. C'est déjà un film à la base, donc forcément, tu vas pouvoir l'adapter. Et c'est déjà, je sais pas si toi tu aimais le jeu ou pas. Enfin, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais c'est déjà un film, enfin un jeu qui est à 80% un film incroyable pour ceux qui l'aiment. Forcément, c'est pas très dur à adapter, d'autant plus qu'il l'adapte. Très fidèlement, quoi. C'est presque... Toi, tu y as joué il n'y a pas longtemps, c'est presque plan par plan, non?
Alors, moi, j'y joue régulièrement, donc peu importe, quand tu me poses la question, je vais dire oui. ouais, c'est impressionnant. Et en fait, parce que c'est quand on dit plan par plan, il y a vraiment des mouvements de caméra, des dialogues qui sont très exactement les mêmes et tout, donc il y a ce côté-là un petit peu vraiment mimique, transposé un pour un à certains moments, quand justement le jeu est assez solide pour se le permettre, et de l'autre côté aussi de l'adaptation, des nouvelles idées, de nouvelles choses, donc il y a vraiment les deux facettes à la fois, et c'est assez... Donc ça fait des choses rigolotes parce que du coup sur TikTok, sur les réseaux, on peut facilement poster les deux plans superposés en disant regardez machin. Je sais que il y en a que ça agace parce que d'ailleurs je sais pas trop pourquoi. Tu sais, il y a cette idée pourquoi vous allez voir la série alors que vous avez déjà vu un film interactif. Donc, la même chose, etc.
Ouais, c'est cette idée qui me on peut en parler d'ailleurs dans la partie sans spoiler. Cette idée qui me frustre pas mal parce que personne va faire chier quand on adapte un livre ou une série de livres en film ou en série de films. Enfin si, je suis sûr qu'il y a des gens qui disent oh, le livre il était mieux machin. Et parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'accrochent. On en parlait dans le rendez-vous jeu. Des gens qui s'accrochent à la défense du jeu vidéo à un point, ce que je fais peut-être parfois dans d'autres domaines, mais à un point qui devient un petit peu irrationnel, et on se dit on a tellement besoin de défendre la légitimité du jeu vidéo en tant que forme d'art qu'on a besoin d'aller plus loin que ce qu'on ferait pour d'autres formes d'art pour dire non, le jeu vidéo tient sur ses deux pattes, il n'a pas besoin de se légitimiser avec l'adaptation en film ou en série qui serait plus grand public ou plus acceptable ou je sais pas quoi. Et je comprends le sentiment parce que pendant des décennies, on a eu besoin de défendre le jeu vidéo en tant que forme d'art légitime. Mais aujourd'hui, disons que la démarche en elle-même, au contraire, si le jeu vidéo est une forme d'art à part entière, bah, comme pour n'importe quelle autre forme d'art, on peut passer de l'une à l'autre, adapter, essayer de voir ce qu'on veut en faire, qu'il y ait une qualité artistique, culturelle, intrinsèque à l'œuvre, et qu'on va vouloir la décliner sous d'autres formes. Et même, ça peut permettre à des gens qui n'ont pas, pour différentes raisons de génération, de loisirs, de goût, qui n'ont pas accès aux jeux vidéo, de découvrir cette œuvre-là, par un autre angle, par un autre biais, même s'ils ne vont pas ensuite aller jouer aux jeux vidéo, ce n'est pas forcément ça le but, mais... Et je trouve que ça, ça a une valeur et une qualité en soi, quoi. Il n'y a pas de raison de se...
Après, en tout cas, on l'a vu là, avec les chiffres de vente, que de fait, visiblement, les gens, en tout cas... alors, peut-être qu'ils rachètent le jeu pour la troisième fois, je ne sais pas. Moi, je l'ai fait, donc il n'y a pas de raison. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent complètement...
Mais je pense que c'est des gens. Je pense que c'est des gens qui sont déjà des joueurs. Tu sais, je sais pas si c'est.
Oui, bien sûr, bien sûr. Non.
En majorité. Moi, je pense pas que ça soit. Tu vois, tonton Edouard qui a 52 ans et qui tout à coup qui n'a jamais touché à une manette de sa vie et qui se dit oh, mais en fait c'est pas mal ce truc. Je vais aller jouer à Last of Us sur PlayStation. Tu sais. Mais justement à ce propos. Il y a un autre truc qui m'a paru intéressant, et on en parlera plus en détail quand on parle de chaque épisode indépendamment, mais dans l'épisode 1, il y a clairement une retranscription exacte de la narration du jeu, ou quasi exacte, et c'est plus facile, machin, tout ce qu'on veut, ok, c'est sûr que c'est plus facile à adapter qu'un Sonic ou un Mario ou je sais pas quoi. Mais dans l'épisode 2, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que j'ai trouvé qu'ils ont réussi à retranscrire le gameplay du jeu aussi, même si c'est une partie congrue du jeu, ils ont réussi à retranscrire le sentiment du gameplay du jeu. Et ça, j'ai trouvé ça très fort, parce que en voyant ça, je me suis imaginé quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler du jeu vidéo, ou peut-être, je sais pas, un enfant ou un cousin qui dit « Ah ouais, mais le jeu vidéo, c'est super, t'as joué à The Last of Us, machin », et qui n'a jamais prêté attention, et puis qui découvre la série et qui se dit, mais qui va voir son cousin et qui lui dit « Mais attends, mais c'est ça ton truc ? Mais c'est génial ! Et c'est génial pour le premier épisode qui se base sur la narration, mais même pour le deuxième, il se dit « Mais c'est ça que tu ressens dans ton jeu quand t'es en train de jouer, c'est excitant, c'est thrilling, tu vois, t'es dans le truc et t'as peur et t'es excité. » J'ai trouvé que ça, c'était peut-être une partie qu'on avait... On était parti du principe que ça allait pas marcher, que c'était pas à ça qui s'intéressait, le gameplay n'avait pas de voix au chapitre dans la série. Et en fait, dans la deuxième partie, dans le deuxième épisode, c'est complètement retranscrit, quoi.
Ouais, complètement. La séquence d'épisode 2 en question, effectivement, elle est vraiment là pour que tu... En fait, en gros, si tu connais pas le jeu et que tu connais un peu les jeux vidéo quand même et que tu vois cette séquence, tu comprends ce que tu vas faire dans le jeu, en fait. Tu comprends de quoi il s'agit, de quoi il en retourne, un peu comment tu vas affronter justement ces zombies dans le côté un petit peu... Tu sais, un petit peu infiltration, un petit peu justement faire attention au bruit, faire attention, tu vois, parce qu'il y a cette histoire de clicker, machin. Mmh. Et voilà. Tu comprends les mécaniques en vrai par cette séquence-là, et c'était assez chouette. Et pour, juste sur la notion du 1 pour 1, il y a aussi un truc assez notable, toute la volonté de justement nourrir tout cet univers-là avec des séquences dans le passé. Avec les rapports du GIEC et... journalistes et les scientifiques qui peuvent alerter, etc., machin. Et moi, c'est du coup, alors pour le coup, tu vois, moi, je suis quand même allé à vachement reculons sur cette série.
C'est vrai ?
Ouais. Alors, j'aimais tout en rapport avec le projet, c'est-à-dire que tout le projet me disait « Ok, ça a l'air d'être pas mal, etc. »
Oui, parce qu'on l'a pas mentionné, mais c'est quand même des gens extrêmement doués. Il y a notamment Craig Mazin qui a fait Tchernobyl, une série absolument incroyable, quoi.
Et du coup, moi, je suis allé reculons, et effectivement, après le premier épisode, tu vois, moi, j'étais pas spécialement plus intéressé que ça. Après le premier épisode, j'ai dit « Ok, ouais, je me suis dit « Ok, ils refont le jeu, ils rajoutent des choses », et j'avais l'envie de voir la suite, mais plus sous l'angle, ok, j'aimerais bien voir le travail d'adaptation, tu vois, d'un point de vue purement intellectuel sur ce travail d'adaptation-là. Donc moi, c'est un peu l'angle après sur lequel j'ai continué à regarder la série. Et puis après,
on peut en parler
un petit peu sans spoiler, mais effectivement, l'épisode 3 marque un peu un tournant... là-dedans, et en tout cas moi, c'est cet épisode là le troisième, je trouve que c'est un épisode qui est recommandable quasiment en standalone, et voilà, qui m'a vraiment déstabilisé, tu vois, en termes de sur cette façon dont j'ai abordé la série depuis l'épisode 1, et maintenant je suis pleinement dedans. Donc maintenant, Alors, à charge à The Last of Us de garder, on va dire, cette qualité. Alors, sans demander à faire des épisodes 3 jusqu'à la fin de la série maintenant, mais voilà. Maintenant, mes attentes ont été relevées et je suis beaucoup plus impliqué maintenant dans le récit que je l'étais sur épisode 1 et 2.
Je comprends. Je serais curieux. J'ai deux choses deux questions qui me. Deux choses qui me restent à dire avant qu'on se lance dans les spoilers. D'une part, je serais curieux de savoir comment les auditeurs qui n'ont jamais joué au jeu ressentent ces aspects de pardon. j'ai été infecté par des cordyceps. cet aspect, par exemple, de retranscription du gameplay, ou peut-être même des gens qui ne sont pas joueurs du tout, est-ce que ça les marque ou pas ? Et puis, un autre truc qui est important à signaler aussi, c'est qu'en plus de Craig Mazin, il y a Neil Druckmann qui travaille aussi sur la série, visiblement qui est assez impliqué, et qui est donc le directeur, la star de Naughty Dog, le développeur du jeu, et qui est vraiment celui qui est derrière le tournant cinématique des jeux du développeur depuis quelques années. Et
d'ailleurs, c'est lui qui réalise l'épisode 2 où justement on ressent le gameplay là.
Ah oui,
c'est lui qui l'a réalisé.
Ouais. J'avais même
c'est
pas
lui
remarqué.
Qui réalise voilà l'épisode. Tu vois, ça fait sens complètement.
Et tu vois, j'ai même pas remarqué que c'était lui qui avait. Enfin, c'est clairement il a une âme de réalisateur gamer, mais d'accord, c'est bon à savoir. Et je suis curieux de savoir. Où il va nous emmener et comment il va gérer le truc. Et je suis sûr qu'il ne va pas faire un truc un pour un avec le jeu jusqu'au bout. Mais en même temps, il ne peut pas trop s'en écarter. Donc, c'est un truc compliqué à gérer. Et c'est un peu une porte d'entrée vers un statut qui va au-delà de ce qu'il est jusqu'ici. Moi, je pense que c'est le genre de choses... Enfin, j'imagine que Kojima, par exemple, regarde ça et se dit mais moi je veux ça. C'est moi là, c'est mon parcours qu'il est en train de. Mais il pourrait devenir une sorte de comment dire de réalisateur transmédia. Ça pourrait monter son profil au niveau professionnel, mais je sais pas. Je suis curieux de voir ce que ça va donner.
Je pense que PlayStation, ils sont en train de regarder ça et effectivement, il y a peut-être d'autres projets en plus derrière lesquels embrayer quoi. Ouais.
Peut-être un directeur des adaptations chez PlayStation ou un, je sais pas. On va voir. Bref, on n'en est qu'aux trois premiers épisodes. Hein. Ça se trouve, ça va devenir complètement pourri. Vous avez compris qu'on a bien aimé. Hein. Qu'on a
bien aimé.
On passe à la partie spoiler.
Allons-y.
Premier épisode. Bon, donc spoiler. Hein. Spoil. On spoil maintenant. Et il faut partir si vous n'avez pas vu les épisodes. Premier épisode. Alors là, on est vraiment... Je ne sais même pas s'il y a grand-chose à dire. On est 100% dans l'intro du jeu. Je veux dire, là, je comprends presque les réactions des gens qui disaient « Non mais attends, si c'est pour refaire le jeu en film, aucun intérêt. » Moi, ça m'intéresse beaucoup, mais je comprends la réaction. Et je trouve qu'il y a une grosse valeur, comme on l'a dit. Mais c'est pile. On va donc de 2003, ils ont déplacé l'action du truc, de 2003 à 2023. Donc 2003, l'intro avec Joël et sa fille. Et puis, on termine, en fait, quand... ça, c'est un petit changement par rapport au jeu, d'ailleurs. Mais on termine quand ils sortent de la zone de quarantaine et que Joël a son premier... a une sorte d'événement psychotique où il perd l'esprit parce qu'il veut protéger inconsciemment sa fille et il massacre un pauvre garde. Et ils comprennent qu'elle est immunisée. Donc, ils n'ont pas gardé le... C'est vrai que ce n'est pas un pour un, ça. Ils n'ont pas gardé le mystère très longtemps.
Ouais. Il y a un changement assez majeur, en fait, dans la caractérisation de Joël et Tess. C'est un collègue qui me l'avait fait remarquer. Donc là, je vais parler rapidement du jeu. Je pense qu'on ne fera pas forcément les comparos jusqu'au bout de la série.
Je dirais qu'on fait spoiler pour le jeu et pour la série et pour le jeu. Donc, si vous avez vu la série et que vous voulez faire le jeu, bon, franchement, vous avez l'essentiel des trucs qui sont spoilés, mais voilà, si vous voulez faire le jeu, on va forcément parler des comparatifs.
Donc, en fait, tu sais, dans le jeu, donc effectivement, il y a Joël qui perd sa fille et tu reprends le contrôle derrière de Joël plus tard, où vraiment, c'est pas quelqu'un de bien, quoi. Vraiment, c'est quelqu'un, c'est un mercenaire avec Tess, voire un chef de gang, là, puisqu'ils vont justement, ils achètent des armes, machin, ils disent des choses, etc. Et il y a l'histoire de ce fameux Robert qui leur vend soi-disant des armes, mais qui les double, qui en fait garde l'argent, mais vend les armes aux Lucioles, etc. Et tu vois, dans la série, on trouve Tess dans cette situation où elle dit mais non, t'inquiète, on laisse tomber, machin. Alors que dans le jeu, ils apprennent qu'ils se sont fait doubler, ils vont chercher Robert, ils vont limite le torturer, puis le buter froidement pour cette histoire d'armes. Et il y a vraiment ce côté, tu sais, gros dur, mafieux, etc. Alors que là, on trouve un Joel qui déjà a un objectif. Il cherche déjà à faire cette voiture pour rejoindre son frère. Donc il a un objectif sur lequel tu peux comprendre. Tu te dis, bah oui, c'est la fin du monde, machin. Il va chercher son frère qu'on a vu en plus dans l'introduction, machin. Avec une Tess aussi beaucoup plus douce, beaucoup moins dure que dans le jeu. Donc il y a ce changement de paradigme là, et ça me posait question justement sur le chemin qu'on va parcourir en fait. Tu vois, instinctivement je me dis qu'ils font ça pour que le téléspectateur, tu sais, tu comprends, il faut qu'il puisse s'identifier, machin. Ouais. Je sais pas si c'est tout à fait ça la volonté. Mais en tout cas, effectivement, le chemin de Joel dans le jeu, c'est ce mec qui est devenu vraiment une bête sauvage, un monstre, machin, qui va regagner petit à petit son humanité dans le voyage. On n'est pas trop sur ce registre-là. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'impact, mais en tout cas, moi, quand mon collègue m'en a parlé, dans ce qui m'avait marqué du personnage, ça change quand même pas mal de choses, quoi.
J'avais pas remarqué, et c'est bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait le jeu, et c'est bien que tu le notes. Je me demande si l'idée n'est pas d'avoir effectivement un Joel moins déshumanisé, qui est moins un salaud, mais bon, qui est plus perdu. Mais en même temps, dans le jeu, on n'avait pas, si je ne me trompe pas, ce moment où il perd les pédales. Tu vois, parce qu'à la fin, quand il se met à battre de coups de poing le garde, on sent vraiment le traumatisme conscient et inconscient de la perte de sa fille, qui prend plus de place, quoi. Donc peut-être que son cheminement sera celui-là plus que la rédemption.
En parlant, je me rends compte aussi que forcément, dans le jeu, je veux dire, à ce stade, à l'épisode, l'épisode 3, on a déjà tué 650 mecs.
Ouais.
Dans le jeu, tu vois, là, il en a tué un et c'était sous le coup d'un truc, tu sais, d'un truc un peu inconscient. Dans le jeu, il y avait cette nécessité aussi de réduire cette espèce de dissonance narrative, là où si tu veux justifier que tu veux
dans,
tuer
dans la série, tu veux dire.
Dans le jeu, je veux dire. Que pour justifier que tu vas tuer tous ces gens-là,
ah oui, d'accord.
C'est peut-être un Joel plus forcément un peu moins humain, et alors qu'effectivement dans la série ils ont coupé ça. Hein, je veux dire, il y a pas énormément de scènes d'action, c'est beaucoup plus, on va dire, classique sur la partie, tu sais, post-apo zombie, c'est souvent une gradation, quoi. C'est pas tout de suite que tu vas tuer des humains, des zombies par l'eau de 2000. Donc ils ont adapté ça aussi, effectivement. Et donc je me dis que c'est peut-être plus logique dans le jeu qu'il soit complètement déshumanisé pour pouvoir justifier tout ça. Donc voilà, donc c'était très réfléchi, encore plus
que je ne pensais. Il y a aussi plein de choses dont on pourrait parler, mais je veux parler. Tu disais post-apo zombie, on n'en a même pas parlé dans la partie sans spoiler. Mais on aurait pu se dire, bon, encore un truc post-apo zombie, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui rappellent quand même la série qui a remis ça sur le devant de la scène à partir du comique qui a remis ça sur le devant de la scène, c'est-à-dire The Walking Dead, on aurait pu se dire, bon, ça va encore, hein, c'est bon. Et moi, je trouve que, alors je suis un peu client, mais je trouve qu'il a son identité et qu'au-delà d'avoir son identité, pas parce que c'est des cordyceps et des zombies un peu différents, c'est juste, bon, il y a toujours quelques différences dans les zombies, même si là, c'est plus spécifique. Mais je trouve que, comment dire, le travail de production design, de tout ce qui est décor, costume, etc., images de synthèse, parce qu'il y en a énormément, encore plus que dans The Walking Dead, ça donne une identité et ça donne une sorte de, je sais pas, une mélancolie de voir ce monde dévasté et très calme tout le temps. C'est pas juste qu'on a un panorama où on voit, ah regarde, les immeubles sont tombés, il y a la plante qui, des plantes partout et la nature a repris ses droits, etc. Mais dans l'ensemble, c'est tout le temps comme ça et ça donne une identité avec en plus les couleurs qui sont les couleurs du jeu, l'intention artistique, le style artistique du jeu est respecté et adapté à un truc qui ne dénote pas en image cinéma. Mais moi, en tout cas, j'ai pas été frustré par le fait que c'est encore un truc de zombie, alors que c'est complètement légitime comme crainte, quoi. Et en fait, il a son identité, ouais. Il a son style, et il se fait sa place, même à ce niveau, au-delà du fait que l'histoire est bien racontée, je trouve.
Parce qu'il y a un truc que j'aurais dû ajouter, mis à part mon amour pour The Last of Us, c'est que moi, j'aime pas des masses, en fait, les trucs de zombies. C'est vraiment pas mon truc.
Ah ouais, donc là, t'étais mal parti, ouais, à la base.
Donc, tu vois, ouais, donc effectivement, ça doit jouer sur le fait que j'étais pas assez détaché sur les deux premiers épisodes. Mais effectivement, il y a ce côté, bon, bah, c'est quand même encore un truc de zombie, oui. Mais effectivement, il y a l'histoire des cordyceps. Moi, je trouve que c'est quand même assez... je sais pas si ça a été exploité ailleurs, ça. Moi, je trouve ça super original. Je trouve ça super original dans le jeu et tout ça. Ouais. Je sais plus comment c'est assez bien exploité.
Ouais, mais c'est parce que c'est quand même, au final, ça reste quand même des zombies qui te poursuivent et qui, s'ils te mordent, tu te transformes en... On parlait d'ailleurs dans le Discord du fait qu'il n'y a plus les spores. Et c'est vraiment juste, ouais. S'ils te mordent, ben...
Moi, je trouve ça très dommage, l'absence des spores. Mais ouais, il y a ça. Mais je veux dire, c'est que du coup aussi... moi, ça m'a ouvert, alors là, surtout avec les introductions scientifiques, parce que du coup, c'est un truc auquel je n'avais pas pensé, même à l'époque de The Last of Us, je n'avais pas forcément pensé, tu sais, en termes de réalisme, tu sais, de réalisme scientifique du truc. Et en fait, je lisais, et effectivement, il y a toute cette histoire, il y a des recherches dans des revues, etc., qui montrent que... nous, êtres humains, enfin mammifères, on est à un certain notre corps est à un certain degré, justement parce que ça nous a permis de résister
à
ces champignons. Et effectivement, les champignons deviennent petit à petit résistants avec les montées de chaleur, etc. Donc ça, c'est un fait scientifique, visiblement. Et aussi le fait, et c'est surtout ça que j'avais pas en tête, c'est cette histoire de médicaments, qu'en fait c'est quasi impossible et très difficile, en fait, d'avoir des médicaments contre les champignons parce que ils sont trop proches, en fait, du règne animal par rapport à des virus et des bactéries, quoi, pour pouvoir facilement détruire de manière ciblée, tu sais.
Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est un film d'anticipation, quoi. Enfin, une série d'anticipation.
Ouais, c'est ça. Et c'est en train de devenir un truc d'anticipation. Donc, moi, tout cet univers fongique et tout, moi, ça, j'avoue que ça fait partie des trucs qui m'ont accroché et qui m'accrochent pas mal aussi.
Ouais.
Dans la série, et surtout j'aime bien dans la série, c'est qu'ils ont rajouté pas mal de choses autour de ça, des choses un peu, voilà, qui sont pas du tout dans le jeu et qui capacité des zombies, etc., qui sont
des trucs de communication, tout ça,
ouais, c'est ça, ouais. Des trucs que tu dis,
ça, j'ai trouvé ça bien trouvé, ouais.
Des séquences assez géniales. Et puis oui, il y a cet univers un peu contemplatif. Moi, je repense beaucoup à la scène où tu sais, ils découvrent les zombies tous par terre, là, tous fatigués.
Oui,
là, machin.
Tout à fait, oui. C'est dans l'épisode 2, ça.
T'as la lumière qui passe dessus. T'as la lumière qui passe dessus, puis tu les vois essayer de tous se décaler pour pas être dans la lumière, machin, etc. Ça donne des effets visuels et des trucs que je trouve assez marquants, quoi. C'est vrai.
Bon, on est d'accord. C'est quand même... tout ça est d'une qualité indéniable. Est-ce qu'on en dit plus sur l'épisode 1 ? Je ne sais pas si on veut reparler de l'intro. Moi, ça m'a remis par terre, quoi, encore une fois. Mais ça, c'est impossible de ne pas, quoi. Mais...
À l'époque, moi, je ne m'y attendais pas, tu vois.
Ah bah oui, bien sûr.
C'était vraiment un énorme choc. Et là, je m'y attendais trop, tu vois.
Ah oui.
Là, c'était...
comme tu l'as fait 40 fois, tu te dis, ouais, bon, ça va, allez, on avance.
Ouais, c'est fait... Genre, essaye pas de m'abadouer avec cette rage. Je sais que tu vas la tuer dans 2 minutes, là, c'est bon.
D'accord. Donc tu as été insensible. Ouais, tu as été immunisé.
Je me suis protégé.
Mais c'est peut-être ça en fait, pour être insensible au cordyceps, il faut regarder la série suffisamment de fois pour ne plus être touché par l'épisode 3 par exemple. Donc bon courage. Ok, bon, épisode 1, on termine sur... Oui, tiens, juste un dernier truc, on révèle l'immunité de comment elle s'appelle déjà, Ellie, de Ellie. Je me demande si c'est pas parce qu'on se dit, bon, on va pas faire un truc secret de polichinelle. En plus, le public, ils l'ont déjà bien teasé.
C'était déjà obvious, quoi. C'était déjà obvious. Flagrant, quoi.
Et du coup, je pense que ça aurait été un petit peu ridicule, même s'ils l'avaient pas teasé. Imaginons qu'ils aient voulu garder le truc secret, genre, oh, mais pourquoi est-ce qu'elle est si précieuse, machin. Ça aurait été un secret de polichinelle, tout le monde l'aurait su, enfin, plein de gens l'auraient su, donc ça aurait pas été un ressort intéressant. Et tu t'en doutes, en plus. Même si t'as jamais vu le jeu, t'as jamais entendu parler.
Ils auraient pu garder ce reveal au bip qui éclaire rouge, là. Ils auraient pu le garder un peu plus surprenant, parce qu'effectivement, tout le monde de l'épisode, elle est enfermée. On a bien compris qu'elle était... Enfin, je sais pas, hein, peut-être parce que je savais, mais moi, j'ai l'impression que c'était très...
Ah oui, c'était clair, oui.
Et voilà, il la teste, machin, etc.
Non, ce que je veux dire, c'est que si le public le sait... En fait, ils ont choisi de le teaser comme ça, donc ça veut dire qu'ils voulaient te le montrer, ils auraient pu ne pas te donner tous ces indices. Et après, une fois qu'ils ont donné les indices, on aurait pu se dire, bon, bah, le public le sait, mais Joel et Tess, ils ne le savent pas forcément. Mais c'est un peu ridicule. Tu vois, ils sont là, « Oh, mais pourquoi est-ce que tu es tellement précieuse ?» machin, ouais. Et tout le monde le sait. Donc, ouais, le truc avec le détecteur qui n'est pas dans le jeu non plus...
Si, le détecteur est dans le jeu.
Je m'en souvenais pas.
Ouais, ouais, il ressemble exactement à ça.
D'accord. Mais bon, donc, ils ont choisi de ne pas le... Ça vient un petit peu soudainement, mais... Moi, je comprends le pourquoi du truc. Épisode 2. Donc, le premier, c'est When You're Lost in the Darkness. Le deuxième, c'est Infected. Et donc, le deuxième, on voit, donc, c'est cette partie scientifique dont tu parlais, où une scientifique assez déprimée qui monte, enfin, elle a pas trop d'espoir, hein. C'est vraiment genre.
Non, elle...
Et c'est marrant.
Elle a tout de suite cerné le truc, quoi. Ouais.
Je trouve que c'est très bien trouvé le fait de renverser la dynamique habituelle de ces situations et de ces films et de ces séries, et de faire en sorte que le militaire est démuni et après un début menaçant, on comprend que bah lui, il est pas du tout une menace. Et où il est, tu vois, un petit peu, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est la scientifique qui dit, envoyez les bombes, il n'y a plus rien
faut
à faire.
Faut tout cramer.
Ouais, faut tout cramer, et moi, j'aimerais passer mes derniers instants avec ma famille, tu sais. Alors que généralement, c'est le scientifique qui fait, mais attention, ils vont envoyer les chasseurs, ils vont mettre une bombe sur toute la zone, échappez-vous de la ville, ces scientifiques sont fous, machin. Donc, je trouvais ça pas mal trouvé.
Ouais, elle est vraiment trop bien cette scène. J'avais vraiment beaucoup aimé. En fait, j'étais surpris de retourner à nouveau dans le passé. Je pensais que c'était juste.
J'espère qu'ils en font pas trop avec ça d'ailleurs. Un peu, c'est bien, mais.
Ouais, bah, j'ai l'impression qu'ils ont envie de montrer quand même les débuts de la pandémie, quoi. J'ai l'impression qu'ils vont pas s'arrêter là.
Possible,
ouais. Même si, voilà, du coup, moi j'avais quand même assez bien compris que c'était dans le. C'est dans la nourriture, parce que dans l'épisode 1 aussi, tu as cette histoire où ils répètent pas mal de choses, qu'ils n'ont pas la pâte à pancake, il a pas pris le gâteau, et voilà, etc.
Ah, j'avais même pas percuté.
Ouais, ouais. Donc en fait, c'est ça, tout l'épisode, ils passent leur temps à esquiver les gâteaux, et à la fin, c'est les voisins qui faisaient les cookies, qui sont infectés, et eux non, quoi.
Oui, voilà. Entre parenthèses, évidemment, genre... C'est en même temps dans le monde entier le même batch de farine qui est livré dans tous les entrepôts du monde le même jour à la même heure.
Bah,
évidemment, c'est n'importe quoi, mais
je sais pas si c'est vraiment partout en même temps.
Bah, c'est ce qu'il disait.
Ouais, c'est ce qu'il dit dans l'épisode 3 ou 2, je sais plus, mais ouais. C'est vrai.
Bon, mais on s'en fout. Enfin, c'est le genre de truc. Bon, bah voilà, il y a une explication. Et c'est tout. Et donc, la suite de l'épisode, moi, ce qui m'a marqué vraiment, c'était cette scène et puis la découverte vraiment de l'extérieur avec les l'ambiance morne et morte de et mélancolique des États-Unis après l'apocalypse. Et puis la scène donc de gameplay dans le musée qui est vraiment super bien foutue et tu sens le comment dire la tension que ça donne en jeu et pour les protagonistes. Et puis je pensais pas qu'il tuerait Tess. Moi j'étais je me ah disais ouais. Bon bah ils vont la garder. Anna Torv qui est incroyable d'ailleurs. Qu'est-ce que je l'aime cette actrice. Et on n'a même pas parlé de la qualité des acteurs, d'ailleurs, dans la partie sans spoiler.
C'est vrai.
Mais c'est juste que tout est assez parfait, quoi, à ce niveau aussi. Et elle se sacrifie, comme dans le jeu. Donc, on est dans cette partie un pour un. L'épisode était très bien. J'ai pas grand-chose à dire de plus, moi, sur cet épisode. C'est peut-être celui sur lequel on a...
Celui où Ellie, l'actrice, moi j'oublie toujours son nom à l'actrice, mais.
Bella Ramsey.
Où elle serait. Ouais, c'est ça. Où elle, je trouve qu'elle prend, ça y est.
Ouais, bah, on la voit pas beaucoup hein, dans le.
Ouais, mais elle incarne complètement une Ellie assez différente du jeu, mais en même temps. Et en même temps, moi j'y crois assez, quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle s'approprie le truc, mais en même temps, c'est complètement Ellie. Et voilà, je suis quand même super impressionné quand même par cette jeune actrice. J'ai vraiment hâte de voir la suite avec elle, quoi, de voir comment est-ce qu'elle va évoluer là-dedans.
Ouais, je crois que c'est pas facile. Pardon, je te laisse finir.
Non, mais j'allais dire que bah, du coup, elle a ce rôle de la petite qui est née. Est née pendant après la catastrophe, quoi. Donc elle redécouvre aussi un peu le monde moderne, là, même si elle a appris des choses à l'école et tout ça. Mais il y a des choses moi, que j'adore dans ses réactions à l'hôtel, là, où elle fait semblant de check-in à l'hôtel,
ouais.
Pour les bagages, etc. Enfin, moi, c'est le genre de choses qui sont dans le jeu aussi, quoi. Je trouve ça déjà cool à l'époque. Quoi.
Et t'as vu le clin d'œil au fait qu'elle sait pas nager et ils ont pas besoin
oui,
de
évidemment.
Ils ont pas reproduit les scènes où tu dois la mettre sur une sorte de planche de bois.
C'est pas fini hein, ça va arriver.
Ouais, ça va peut-être arriver. Ouais, et puis c'est vrai que je pense que pour les gens qui ont fait le jeu, je crois qu'il y a un affect plus grand pour Ellie que pour Joël, même si bien sûr la plupart des gens sont très attachés au personnage, mais c'est pas qu'ils sont physiquement que Pedro Pascal est plus proche de Joël physiquement que Bella Ramsey ne l'est de Ellie, mais elle a un visage un petit peu particulier. Bella Ramsey, elle a un visage un peu plat, enfin elle a un visage un peu différent, et donc je comprends que peut-être qu'on la voit moins, ou alors parce qu'on est plus picky avec Ellie, j'en sais rien, mais on la voit moins en Ellie. Et c'est vrai que dans ce deuxième épisode, elle devient vraiment Ellie. Et moi, je trouve que c'est pas une Ellie qui est si différente de la Ellie du jeu, mais peut-être qu'elle est, dans mon souvenir, elle est peut-être au départ peut-être un peu plus effacée et qu'elle s'ouvre plus au cours du jeu. Mais là, tout de suite, elle s'impose. Et elle prend sa place, t'as raison, dans ce deuxième épisode, elle prend sa place, et elle est drôle, et elle est dynamique, et elle interagit avec Ellie et Tess très très vite, avec la blague récurrente de « je veux un flingue », qui est dans le jeu aussi d'ailleurs, mais ouais, je pense qu'elle est complètement légitime après le deuxième épisode. Ouais.
J'ai l'impression qu'ils lui ont rajouté une certaine noirceur qu'il n'y a pas dans le jeu. Mmh. Tu sais, il y a cette séquence où elle descend toute seule là, dans une espèce de grenier là, où elle va avec le couteau, machin. Enfin, j'ai l'impression qu'ils rajoutent quand même une couche un peu de noirceur.
Ouais.
Je veux le dire comme ça.
Ah oui, d'un enfant qui a grandi dans ce monde, qui n'est jamais sorti de la quarantine zone. On peut comprendre qu'elles sont un peu... C'est vrai que cette scène est assez frappante. Ouais. Ah merde, du coup, j'ai oublié ce que j'allais
ajouter. Ouais, du coup, je t'ai coupé, je suis désolé. C'était...
Non, mais moi, je te coupe tout le temps. Mais je suis sûr que c'était super malin, ce que j'allais dire, mais c'est pas grave.
Non, mais j'en suis persuadé.
On y revient.
Faites comme si, faites comme si Patrick avait dit un truc super malin.
Hocher de la tête, genre, ah ouais, Patrick a vraiment raison hein, sur ce coup. Oui, on parlait donc de Bella et du fait qu'elle s'identifie plus à Ellie. Et bon, bref, ok. Épisode 3, du coup, qui est sans doute celui qui a le plus fait parler. Si vous l'avez vu, je ne sais même pas si on a besoin de le décrire. C'est Bill and Frank. Bill and Frank et leur vie pendant presque 20 ans, 15 ans. Pendant l'apocalypse et donc leur histoire d'amour. Qu'est-ce que... J'ai envie de te demander ce que tu en as pensé. Je pense que je peux deviner, mais...
Moi, c'est mon épisode préféré d'assez loin.
C'est celui qui t'a donc fait... Tu disais tout à l'heure qu'il a fini de te convaincre sur la série, quoi.
Ouais. En fait, c'est ça. C'est l'idée de dire que même si j'ai un peu ce détachement... du reste de la série, parce que moi j'ai vécu mes trucs de mon côté avec The Last of Us. Hein, pour le redire mille fois, moi j'ai acheté le jeu, je sais pas, 50 fois, j'ai plusieurs éditions collector là au-dessus de ma tête, sur mon armoire.
Plusieurs éditions collector.
J'ai donné à ma fille le nom de Ellie en nom secondaire pour Ellie, quoi.
Tu sais que.
J'ai un chemin.
Je pense que c'est à la fois. Je trouve que c'est un peu. Je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de gens, mais moi aussi, à la naissance de mes enfants, je pensais, est-ce que je voudrais, si j'ai une fille, est-ce que je vais l'appeler Ellie ? Finalement, je ne l'ai pas fait, mais je ne sais pas ce que ça dit sur les joueurs que nous sommes, où la première fois qu'il y a un personnage féminin avec une figure paternelle qui en prend soin dans un jeu vidéo, tout le monde est là « Oh, je vais appeler ma fille Ellie, je me demande si d'autres joueurs ont eu cette réaction, s'ils sont à nos âges et à nos stades.
Je vais essayer Samus, mais ma femme a dit non.
C'est un peu moins, oui, je comprends. Ouais. Mais c'est marrant que tu l'aies fait comme ça, je me demande si on est plusieurs à au moins y avoir pensé, si on est nombreux, et en même temps, c'est vrai que c'était un jeu qui a marqué tout le monde, enfin beaucoup de gens en tout cas, et puis c'est vraiment juste la première fois, c'est tellement simple quoi, tu mets un bon jeu avec une figure paternelle qui s'occupe d'un enfant, et là tous les gamins, ah !
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Donc, ouais, tu disais, il t'a...
Mais donc, du coup, voilà, c'est que voilà, donc même si j'ai ce détachement-là vis-à-vis du reste de la série, avec cet épisode-là, j'ai maintenant confiance et je sais que les showrunners et l'équipe va avoir des choses à me proposer de puissant dans le reste de la série, quoi. C'est-à-dire que même si c'est pas tous les épisodes, s'il y en a un deuxième aussi bon ou si dans la saison 2 ils te refont ce genre de choses comme ça, je vais vouloir rester jusqu'au bout maintenant, tu vois.
Tu sais que ce genre de choses est possible dans la série, et donc tu l'apprécies.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça.
D'accord.
Oui, et du coup, pas de séquence dans le passé, donc vraiment un focus quasi total sur cette histoire de Bill and Frank. Avec un acteur que je savais pas qu'il était là, qui était dans le. Je savais pas qu'il était dans la série. Un acteur qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, je le connaissais que de Parks and Rec, où il joue Ron, où il a, voilà, c'est un monsieur à moustache.
Comment il s'appelle ?
Tu vas me retrouver le nom de l'acteur.
Je suis en train de chercher Nick Offerman, qui.
Voilà.
Tu sais, c'est marrant, c'est genre, moi, j'ai jamais regardé Parks and Rec. Et c'est un type que j'ai l'impression de connaître, d'avoir connu toute ma vie, tu sais.
Il appartient à Internet, hein.
Mais clairement. Ah oui, mais attends, il est dans... C'est à cause des memes. Complètement. Ouais. C'est pour ça que je le connais tellement bien.
Et du coup, là, il est dans un rôle dramatique, enfin voilà, où c'est brillant, quoi. Les deux acteurs sont brillants. Et aussi la réalisation qui te permet de les accompagner tous les deux avec, bon, parfois de la triche, quoi. Quand tu mets du Max Richter en musique derrière, bah oui, tu vas pleurer. Hein.
Alors écoute.
C'est difficile de faire autrement.
tu mentionnes ça. Donc forcément, enfin évidemment, ce morceau, tu ne peux pas rester insensible. Ou alors, je ne sais pas, t'es un robot, t'es une IA générée par ChatGPT. Je ne sais pas comment c'est possible de rester insensible à ça. Surtout, alors à la limite, si le morceau ne te touche pas, dans le cadre de l'épisode, quelqu'un qui n'a pas pleuré, je ne lui ferai pas confiance pour garder mes enfants, par exemple. Tu vois, je me dis, il y a un côté psychopathe quelque part. Et le morceau, moi, m'a tout le temps où il passait, je me disais, mais d'où je l'ai entendu ? J'avais l'impression que c'était un morceau qui était utilisé dans Interstellar. En fait, ce n'est pas Interstellar. Là où je l'avais entendu la fois d'avant, encore que celui d'Interstellar, c'est un peu les mêmes émotions, hein, le moment à la fin ou machin. Mais en fait, c'était dans Arrival, où il l'utilise à la fin aussi pour une séquence que je ne vais pas spoiler, mais qui est également hyper, hyper émouvante et hyper touchante. Et du coup, j'avais non seulement le poids de cette scène-là, mais en plus le souvenir inconscient du fait qu'elle avait déjà, elle était associée pour moi à une autre ouais, conclusion hyper lourde à porter. Et donc, mais moi, j'étais... alors, je ne me suis pas... Tu vois, c'était pas... Mais c'était, oui, les larmes qui ont coulé quand même. Tu vois, c'était difficile à regarder. Et ça a complètement fonctionné. Mais c'est... Enfin, sur Internet entier, ça a fonctionné. Je veux dire, il faut vraiment être bizarre pour que ça ne marche pas sur toi, quoi.
Ouais, ouais, complètement. Et puis voilà. Puis, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire de cet épisode, puisque c'est beaucoup...
Il y a un truc. Que je dirais en plus, c'est la surprise du fait, parce que, bon, encore une fois, on spoil un petit peu le jeu, mais dans le jeu, Bill est encore en vie quand on arrive là-bas. Et donc, ça, c'est le genre de truc dont je me dis, Neil Druckmann va réussir à faire des petites surprises, des petites choses pour les gens qui connaissent le jeu et donc garder l'intérêt quand même au minimum de la série, même narrativement. Je pense pas qu'il pourra changer la trame générale, les grands axes, ça me paraît difficile, mais il y aura peut-être des petites choses, parce que du coup, quand tu arrives à la fameuse scène où Frank lui demande de l'euthanasier finalement, et bah tu te dis, bon bah oui, il va le faire, et mais il va survivre et il va faire, tu vois, et ça va être son dur rétablissement et comment il va faire avec Joel et est-ce qu'il aura changé ou pas. Parce que tu sais que dans le jeu, il n'est pas mort. Et donc, c'est une surprise quand même qu'il se soit... Une surprise sans être si surprenant que ça, mais en tout cas, pour les gens qui ont joué au jeu, ça peut être une surprise qu'il boive aussi la dose de cheval de calmant, de tranquillisant. Et en même temps, quand la scène se déroule et quand il lui demande, tu dis, mais comment tu peux vivre ta journée sans t'effondrer, quoi ? Et je sais qu'il a besoin de la force d'être fort, parce que c'est pour Frank, c'est pas pour lui, c'est pour Frank qu'il veut lui donner cette dernière journée, donc il faut qu'il soit fort et qu'il réprime son désespoir, finalement, et sa tristesse. Mais en même temps, quand tu sais qu'il a pris la décision de partir avec lui, tu comprends qu'il puisse vivre cette journée. Tu vois, j'en parle, ça m'émeut rien que d'en parler. Mais tu comprends qu'il puisse vivre cette journée parce qu'il sait qu'ils vont partir ensemble à la fin de toute façon. Tu vois ce que je veux dire ou pas, ça
mmh. Oui, ça... bien sûr. Ouais.
Et donc, c'est à la fois surprenant pour les joueurs et en même temps, ça colle complètement dans l'histoire et dans le profil, enfin, le cheminement psychologique des personnages. C'est...
ouais. Et là encore, c'est un Bill qui est complètement différent, là, pour le coup, de celui qu'on a dans le jeu, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un peu de cette... Enfin, j'ai un peu une façon de le voir, c'est que, du coup, dans le jeu, on a un Bill un peu sans Franck. Je ne sais pas quelle histoire ils ont eu. Du coup, on ne sait pas quelle histoire ils ont eu, s'ils en ont eu une ou pas, en fait, dans le jeu. mais du coup, on a un build qui est en mode full survivaliste, comme si, effectivement, le build du début de l'épisode, quoi, et dont la fonction est assez claire dans le jeu, c'est que c'est un miroir de Joel, un peu, voilà, ce que tu vas devenir, en gros, si tu continues à être seulement dans la survie, ce genre de choses-là, quoi. Et y a cette histoire de Frank un peu qui apparaît, et justement, dans le jeu, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, c'est que on va trouver des notes manuscrites un peu partout qui vont nous raconter un peu ce qui se passe, l'histoire, etc. Et c'est comme ça qu'on découvre un peu l'existence un peu, de ce qui s'est passé avec Frank, etc. D'ailleurs, c'est rigolo parce que cette histoire de notes, elle revient dans l'épisode, puisque du coup, il y a cette histoire, tu sais, de notes à la fin. Au fait, le code...
Ouais,
fait,
c'est marrant, ça.
Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu cette volonté de l'auteur de se dire bah, je vais offrir un peu à Franck aussi le droit, en fait, de. À Franck, à Bill, le droit de vivre un truc cool, en fait. Et pas, tu vois, de laisser une chance à cette relation, du coup, de se faire. Et du coup, moi, ça m'a aussi ému par ce biais-là, parce que du coup, tu vois, je redécouvrais aussi un peu. C'est what if, tu sais, c'est un peu, un peu qu'est-ce qui se serait passé si ce mec-là avait été heureux, en fait, toute sa vie, parce que du coup, tu vois, quoi, c'est quoi, c'est 10 ans,
c'est 15 ans, 15 ans de vie,
de relation, et ça se passe bien, en fait. Tu vois, dans le contexte post-apo, ils ont leur petite ville, ils font des petits brunchs avec les amis, tu vois, c'était un peu inespéré,
C'est l'une des parties, enfin l'une des choses que j'ai vraiment apprécié, c'est que là encore, ils font ça de manière intelligente et ils tombent pas dans le piège, le lieu commun de bah oui, ils sont super heureux, mais il y a des zombies qui finissent par rentrer dans leur petit cottage, ou alors là quand il y a les raiders, et d'ailleurs Joel le dit, il y a des raiders qui vont venir, vous allez, enfin c'est pas aussi simple que tu crois. Et là, tu te dis, ah bah merde, ça y est, ça va, c'est là que ça va merder. Et en plus, il sort comme un abruti pour leur tirer dessus au milieu de la route, tu vois, s'exposer au tir des ennemis. Et il se fait tirer dessus, et ils sont dans le salon, et il dit, appelle Joël, tu pourras pas survivre. Et l'autre, il dit, ok, je pourrais pas. Et tu te dis, mais putain, ok, bon, là, c'est fini. Scène d'après. Enfin, j'allais dire tout va bien. Non, scène d'après, on est 10 ans plus tard et ils ont survécu, ou 5 ans plus tard.
Lui va bien, mais c'est Franck qui va pas bien. Tu vois.
Mais ils sont pas. C'est pas les zombies, c'est pas les raiders, c'est pas l'apocalypse. Non. Ils ont vécu, ils ont réussi. Et le fou survivaliste qui dit que le gouvernement s'est
maladie
c'est les nazis.
De Franck, l'époque moderne d'avant ne l'aurait pas sauvé. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il n'y avait pas déjà de remède pour ça, et du coup t'as pas ce sentiment de gâchis, tu sais, à cause de l'horreur de la situation. Vraiment, ils ont vécu le meilleur truc possible, en fait, qu'ils auraient
tous
pu
les deux,
et en plus jamais ils ne se seraient rencontrés autrement, tu vois. C'est vraiment le côté, il y avait rien pour lui dans le monde d'avant, il a attendu la fin du monde toute sa vie, et il a raison, parce que finalement c'est le meilleur truc qui lui soit arrivé, quoi.
Exactement. Et je crois que
aussi quand Ellie lit la lettre et s'arrête
à Tess, ouais.
Oh là là.
Je trouve que
ça c'est,
tu sais, c'est un poil dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps avec Tess, parce que même dans le je trouve que dans le jeu on a passé plus de temps avec elle, parce que c'est plus long, hein, c'est pas juste 2 heures, et donc on s'y est attaché un petit peu plus, même si là c'est peut-être pour ça qu'il passe plus de temps sur elle avec quand elle se fait battre quand elle s'est fait attraper par machin et tout, mais du coup l'impact du fait qu'elle soit, même si c'est pas trop mal amené, forcément on a passé tellement de temps avec d'autres personnages qu'on n'est pas aussi
J'ai l'impression qu'ils ont échangé justement l'attachement que le joueur pouvait avoir. Ils l'ont changé, ils l'ont transposé sur l'attachement entre Joël et Tess, quoi. Ils sont beaucoup plus proches, clairement. Ils sont un vrai couple, etc. Ils ont fait des brunchs ensemble et tout avec leurs copains. Mais du coup, effectivement,
oui, mais à la fin de l'épisode 2, on ne sait pas ça. Tu sais, on a
pas eu bien sûr. Non, mais bien sûr.
Mais ils sont plus un couple, clairement, dans la série que dans le jeu, ça, c'est évident. Tu sens que dans le jeu, ils sont juste ensemble parce que c'est pratique, et puis, bon, parfois, t'as envie de niquer, donc, bon, voilà, elle est bien, elle est sympa, et lui, il est cool. Bon, et, mais alors que dans la série, vraiment, ils sont un couple, et il y a un vrai attachement. Tu le sens un petit peu, mais il n'empêche, je trouve qu'à la fin de l'épisode 2, quand elle se sacrifie, bah, c'est quand même un petit peu surprenant, mais c'est pas aussi... ça tire pas sur les cordes de ton cœur de la même manière, quoi. Mais, bah donc, je crois que... bon, à la fin de l'épisode 3, on a le retour de cette relation un petit peu, comment dire, playful entre Joel et Ellie. Et j'ai trouvé hyper bien le fait que Ellie... Et tu sens aussi sa comment dire... sa dureté et le fait qu'elle soit plus âgée que son âge, quand elle lui dit « Non, mais c'est pas ce que j'allais dire. Je vous ai pas fait sortir de la zone, je vous ai pas forcé à me prendre en charge, donc tu vas arrêter de me reprocher maintenant des trucs dont je suis pas responsable. » Et tu sais, il la regarde, tu sens qu'il est un petit peu surpris, mais il snap out of it, tu vois. Il dit « Bon, bah ok, oui, très bien. » Enfin, même pas, il fait pas ça, il fait un petit mouvement de tête et c'est compris. Et du coup, tu sens, après ce petit passage, que leur relation a un petit peu changé et que leur relation peut commencer, que leur relation peut débuter et qu'il n'est plus, après quoi, 3 épisodes, qu'il n'est plus juste le mec bougon, ronchon, qui veut juste « j'aime personne et en plus, j'ai perdu ma copine et toi, je voulais même pas être avec toi et tu m'emmerdes à devoir te trimballer, machin ». Là, il n'y est plus. Il a compris, elle avait tout à fait raison, que c'est lui qui a choisi. Et donc, voilà. J'ai trouvé cette scène vraiment, vraiment bien, bien écrite et bien jouée.
Ouais.
Ah, bah écoute, donc au final, une belle série, jusqu'ici.
On va pouvoir... pouvoir suivre. On va en regarder trois autres avant de revenir.
Ouais, c'est 3 par 3. Donc, on en a 9, donc ça colle bien. Il y a... J'ai lu les noms des épisodes suivants, et il y en a un dont j'ai très très hâte. J'ai très très hâte de tous. Là, vraiment, tu sais, c'est l'effet série hebdo qui fonctionne. Pour certaines, c'est bien de binger, mais pour certaines, c'est bien d'avoir un épisode par semaine. Et là, vraiment, mais j'ai hâte d'être à lundi. Pour pouvoir voir mon épisode, c'est
ouais, complètement, ouais. Un effet. C'est difficile parce que du coup, il sort dans la nuit. J'ai super envie de le voir, de le voir le matin, machin, mais j'essaie d'attendre quand même. Que...
Ouais, moi, je peux le voir le midi, tu vois. Je peux le voir le midi et j'essaye d'éviter d'éviter Internet le matin quand je me réveille parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà
vu. J'ai vu le titre dont tu parlais.
Pardon?
J'ai vu le titre dont tu parlais.
Ouais, on va même pas dire le nom de l'épisode, enfin le numéro de l'épisode, pour pas, mais je sais que...
Il sera réalisé par Neil Druckmann aussi, du coup.
Pardon ?
Il sera réalisé par Neil Druckmann aussi.
Non, c'est écrit par Neil Druckmann.
Ah, écrit, je suis pas sur la bonne ligne alors.
C'est quelqu'un d'autre qui...
Ouais, ok, super.
Bon, entre-temps, on aura quand même... parce que bon... Et je l'ai pas dit en intro, mais clairement, il y a une raison complètement légitime d'avoir parlé de The Last of Us dans Super Laser Punch. C'est que dès le premier épisode, on a une série de punch qui est choquante dans l'épisode, mais qui est en plus un élément majeur du cheminement psychologique d'un des personnages principaux. Donc, c'est complètement justifié d'avoir
The Last of Us. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, tu m'as appelé. Tu m'as dit, ouais, il y a des punchs dans The Last of Us.
C'est bon, on va avoir le droit.
J'ai appelé mon avocat, il est d'accord. On a le droit de faire un épisode.
Donc, voilà. Donc, c'est bon, on est carré. Mais on est quand même toujours principalement sur les films de super-héros, où il y a encore plus de punchs. Et si tout va bien, Johan, incroyable, dès la semaine prochaine, on sera de retour. C'est bien. Non, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines.
Dans 2 semaines.
Ouais, pour parler de Ant-Man and the Wasp, Quantumania.
C'est ça. Ça.
J'espère qu'on pourra faire l'épisode tout de suite après la sortie. Mais au pire, ça sera quelques jours après. On sera là de toute façon. Mm-hmm.
Et puis aussi, pour le mentionner rapidement, là, il y a DC qui commence à annoncer un petit peu leur plan pour faire un super nouvel univers connecté et tout ça, chapeauté par James Gunn.
Ouais, je suis un peu...
Plein de projets. Moi, je suis pas aussi hypé que pour l'MCU. Je suis toujours aussi méfiant, moi, pour DC, qu'ils sont capables de faire. Mais voilà, ça peut être intéressant.
C'est très certainement intéressant, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais j'ai, sur tout ce que j'ai vu, évidemment, moi, qui suis moins familier de DC que je ne le suis de Marvel, les trucs qui m'intéressent sur DC, c'est la Justice League, quoi. C'est Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, à la limite, Green Lantern. D'ailleurs, il y a une série Green Lantern qui pourrait être intéressante. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas ça, justement. Le fait qu'ils aient un univers connecté et puis des trucs en parallèle, des films qui n'ont rien à voir, qui ont d'autres versions des mêmes personnages, c'est très comics, hein, donc pourquoi pas. The Batman était sympa, Joker c'était plutôt cool, c'était même assez cool. Bon, j'ai pas du tout de problème avec l'idée qu'il y ait différentes séries des différents Batman dans le DCEU, ok. Mais par contre... j'ai eu l'impression que les trois quarts des projets dont on nous parlait, c'était des trucs que je connaissais même pas et des trucs un petit peu, tu sais, Silver Age of Comics, où c'est des trucs un petit peu débiles, quoi. J'ai pas la liste ici. Est-ce que je l'avais marqué quelque part ? J'ai plus
les trucs
était.
Que je connais pas, comme Blue Beetle ou
voilà.
Comme ça. Moi,
exactement. Je dis pas que ça sera pas bien, mais j'ai du mal à être hypé par le truc parce que ça a l'air d'être quand même. Des personnages secondaires et en plus un peu goofy, un petit peu bizarre. Alors, ça, encore une fois, y a des trucs qui sont très réussis avec ce genre de personnages, donc peut-être que ça sera bien, mais c'est juste que j'ai moins de... Ouais.
Moi, j'ai plus peur de James Gunn que de ça.
Ah oui ?
Parce que du coup... ouais, c'est ça. J'ai son univers un peu trop loufoque. Je sais pas comment il va l'appliquer ici, quoi. Mais ça m'implique pas trop, quoi.
Ouais.
J'avais bien aimé Gardien de la Galaxie au moment où c'est sorti, mais tout ce qui a été fait après, on est quand même dans le travers, tu sais, qui finit par donner Thor 4, quoi, en fait. Le souci, quoi.
J'ai trouvé que... alors, il y a des gens qui ont beaucoup aimé Peacemaker, la série, que moi, j'ai regardé un ou deux épisodes et j'ai pas accroché. Peut-être qu'elle est très bien, il faudrait que j'insiste un peu. Mais ouais, cet humour me convient pas énormément. The Suicide Squad, le deuxième, je l'ai trouvé sympa, vraiment, pas mal du tout, avec des scènes qui m'ont vraiment plu. Et puis, évidemment, Margot Robbie qui est éblouissante, comme toujours. Et dans certaines scènes, elle est vraiment bien. Y a des bonnes parties, mais ça ne m'a pas donné une confiance telle à... Enfin, ce n'était pas le James Gunn de Guardians of the Galaxy 1, quoi. Celui-là, moi, je lui aurais donné les clés de n'importe quoi avec super confiance. Et puis, il a fait le 2. Et puis, tu vois, ouais. il y a eu quelques trucs comme ça où j'ai été... Le je ne sais même plus si on en a parlé, mais le Holiday Special des Guardians of the Galaxy, c'était lamentable, quoi.
Non, on n'en a pas parlé, c'est vrai.
Moi, j'ai été atterré. Ouais, on pourra en parler à ce moment, ouais. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. J'étais atterré, c'était pas la peine de le faire. Si tu n'avais pas le budget et que tu pouvais... ça n'a aucun intérêt, quoi. Bon,
on est en phase. Je pense qu'on peut considérer que la critique Supervisor Punch est faite, hein, parce que je pense la même chose.
Donc,
j'ai même pas trouvé ça sympa à regarder. En
fait. Ouais. Voilà. Bon, écoute, on verra ce que ça donne. Peut-être que ça sera super bien et qu'on sera tous surpris. Moi, j'ai l'impression qu'il a annoncé ce qu'il pouvait, parce que caster des nouveaux Superman, Batman, Wonder Woman, ou garder les mêmes, on ne sait pas. Là, il y a le prochain Flash qui va faire un reset de l'univers. Ok, très bien. Et à partir de là, on pourra repartir. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une phase... qu'est-ce qu'on fait ? On a des trucs qui existent déjà. On va mettre ça ici, on va mettre ça là. Dans 3 ans, on repartira pour de bon. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu ça.
Oui, c'est ça. C'est 2025, le Superman. Ouais. Et je pense que c'est à partir de là que ça va compter.
C'est ça, ouais. Bon. Merci, Johan. d'avoir été avec moi, avec nous. Et on se retrouve dans deux semaines pour Quantum Mania. D'ici là, t'es où? Où on te retrouve?
On me retrouve sur Twitter, principalement. Là, qu'est-ce que j'ai là? Je parle de Forspoken en ce moment, en mal, mais j'aime
mais
bien.
Mais pas donc, que.
Voilà, mais pas que. Et puis, voilà, avec tous les jeux qui vont sortir, je pense que je vais avoir envie d'en parler aussi. Donc, n'hésitez pas à venir sur Twitter. Et puis sinon, sur Mastodon, je fais que retweeter les toutes de Patrick sur Mastodon.
Mais vous pouvez aussi venir sur le Discord, où on a un channel Super Les Open, où on parle de tout ça. Et il y a même un channel HBO The Last of Us. Donc si vous voulez parler de tout ça, on est sur le Discord. Pour ma part, c'est Note Patrick un peu partout, y compris sur Mastodon. Vous pouvez me retrouver là-bas. Et notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, pour l'actu jeu vidéo et pour l'actu tech. Voilà, c'est dans le nom. Et puis, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.
Ouais, super.
Bis à tous et à toutes. Ciao, ciao.
Ciao.
Et faites gaffe aux champignons quand même. On sait jamais.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.